France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Lucas Lecoustre à la console. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre métaphysique, théologie et expérience spirituelle, et ce dans un contexte mal connu, pour ne pas dire méconnu, ici en Occident, à savoir le contexte de l'islam. Deux invités vont nous ouvrir la voie. Abdennour Bidar, philosophe de l'islam libéral, auteur de nombreux ouvrages visant à renouveler notre vie spirituelle, dernier livre en date, L'islam du cœur, appel aux consciences musulmanes, c'est publié chez Robert Laffont. Mathieu Terrier, lui, est historien des idées en islam, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Il signe avec Fares Gillon, on dit Gillon ou Gillon ?
Gillon.
Gillon, une anthologie bilingue de la philosophie en islam, anthologie publiée chez Diacritique Éditions.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Commençons avec cette archive d'Henri Corbin qui date de 1957. Henri Corbin fut philosophe, islamologue, orientaliste, mais aussi traducteur et théologien.
Il est regrettable que cette catégorie de savants que forment les philosophes orientalistes n'ait été représentée jusqu'ici en Occident qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Si pour le jeune étudiant occidental en philosophie, l'idée du XIIIe siècle par exemple, ou du XVIe ou du XVIIIe siècle, évoque des noms multiples et des écoles prestigieuses, il est à craindre, en revanche, qu'il soit pris le coup, si l'on s'avise de l'interroger, par exemple, sur l'importance du XIIe siècle en Iran pour l'histoire de la philosophie, de la spiritualité. Et pourtant, quelle extrême richesse et quelle diversité nous offre la culture spirituelle iranienne à la veille de la tempête mongole. À l'extrême-orient du monde iranien, dans le Khwarezm, le soufisme, sous l'impulsion du grand maître Najmuddin Kubra, prend une orientation toute nouvelle, approfondissant une mystique spéculative qui le diversifie radicalement des premiers ascètes de l'islam qui avaient pris le nom de soufi.
C'était donc Henri Corbin. Un continent à découvrir, nous allons le faire ensemble. Mathieu Terrier, vous signez, donc vous co-signez une anthologie, et cette anthologie comporte plus d'une trentaine d'auteurs majeurs, les plus grands penseurs et mystiques de l'ère culturelle islamique. Mais il est plus question, on va dire, de civilisation que de religion.
Bon, le terme islam, effectivement, a les deux sens. Il y a une commodité, disons, typographique qui est d'écrire islam avec une majuscule pour se référer à la civilisation et avec une minuscule pour se référer à la religion. Notre anthologie s'intitule donc « Anthologie de la philosophie en islam ». Donc, il est effectivement question de la philosophie sur le continent de la civilisation de l'islam.
C'est-à-dire que c'est pas philosophie arabe ou philosophie islamique ?
Non, alors c'est pas philosophie arabe parce qu'il y a aussi des textes en persan.
Ouais.
Je tenais justement à faire valoir le fait que la philosophie en islam ne s'est pas écrite seulement en arabe, mais aussi en persan. Et ça n'est pas la philosophie islamique parce que toute la philosophie qui est représentée dans cette anthologie n'est pas tournée vers la religion de l'islam, mais la religion de l'islam est évidemment au centre de la civilisation de l'islam. Et les textes présents dans cette anthologie, pour une immense majorité d'entre eux, ont partie liée avec le fait spirituel de la religion musulmane.
Abdennour Bidar, alors j'ai souri, je dois dire, en vous lisant, parce que j'ai lu ça, c'est au tout début de votre essai. Qui suis-je, moi, le petit muslim français, pour parler de l'islam du cœur ? Qui êtes-vous ?
Un petit muslim français qui ose se mêler de ce qui ne le regarde pas. Non, c'est une façon de dire que j'écris, je pense, je vis aujourd'hui en dehors de ce qu'on appelle le Dar al-Islam, c'est-à-dire le monde musulman. Ce qui peut-être me donne un bénéfice majeur du regard philosophique, puisque une des fonctions de la philosophie, c'est de porter un regard critique, donc un regard distancié. Et moi, je bénéficie déjà tout simplement d'une distance géographique vis-à-vis de ce monde musulman qui me permet de l'observer du dehors. Et en réalité, dans un dehors complexe, c'est un dehors dedans, puisque je suis moi-même musulman, je suis nourri par cette philosophie de l'islam. L'introduction du livre de Mathieu Thérieux le dit très bien, quand on parle de philosophie en islam, en réalité le terme est très polysémique. Il s'agit à la fois de pensée, de sagesse, de théologie, de théosophie, de mystique, même parfois d'atomisme ou de cosmologie. Hein. Et donc voilà, je vais mon petit bonhomme de chemin de philosophe musulman qui regarde les choses à la fois du dehors et du dedans, dans une position qui est sans doute un peu baroque, complexe, mais que j'essaie de rendre féconde.
Un philosophe spirituel attaché autant à la raison qu'à la foi ?
Oui, alors ça c'est je dirais pour le dire vite, hein, on le dit généralement comme ça, c'est-à-dire on dit qu'on pense, en tout cas moi c'est mon cas, avec la foi et la raison, l'une et l'autre se disputent, mais au sens, je dirais, ancien, médiéval, de la disputatio, hein, c'est-à-dire qu'elles se demandent des comptes, elles exigent l'une de l'autre quelque chose. La raison tire la foi du côté d'une exigence d'intelligibilité, de clarification des concepts, du côté du logos en général, hein, c'est-à-dire de ce qui est traduisible dans un langage humain et partageable dans un langage humain, de ce qui possède aussi la raison, de ce qui peut être argumenté. Et puis la foi tire la raison vers, d'une certaine façon, ce qui a toujours échappé à cette raison en tant qu'elle est discursive, c'est-à-dire que la foi prétend toucher son objet d'une façon plus directe, plus subtile, voire plus mystérieuse et secrète, dans ce que souvent la philosophie de l'islam a aimé appeler la dimension du cœur, la dimension du qalb, ou même du fond du cœur, du fouad. Il y a une phrase d'un grand mystique musulman que j'aime beaucoup qui dit « Les cœurs des connaissances sont les tombeaux des secrets ». Voilà. Et c'est classique en islam que de dire qu'effectivement dans le fond du cœur logeraient des secrets, mais qui dit secret dit indicible. Et peut-être que la tâche de la raison, c'est d'essayer de rendre, dans la mesure du possible, un peu dissible ce qui, par essence, puisque relevant de la transcendance et de l'expérience intérieure de la transcendance, échappe à tout ce qui peut être formulé et relève de l'ineffable.
Et à qui s'adresse votre livre ?
Je l'ai sous-titré « Appel aux consciences musulmanes », mais... Et là, je vais reprendre une expression de l'introduction de Mathieu Thérieux qui m'a énormément plu. Il dit « Ce livre, cette anthologie s'adresse à l'honnête homme du XXIe siècle ». J'ai énormément apprécié. Ben, moi, je pourrais dire la même chose, pardon, hein, je m'approprie, ou en tout cas, je partage cette expression parce que je dirais, en tant que philosophe musulman aujourd'hui, je ne peux pas, puisque le monde est mondial, hein, ne m'adresser qu'aux musulmans. Je pense que les questions auxquelles les musulmans sont confrontés aujourd'hui, les questions aussi bien spirituelles que politiques, culturelles, civilisationnelles, sont celles de la civilisation humaine tout entière. Et c'est un exercice constant dans mes livres que d'être comme ça en débordement et en proposition et en contribution. Qu'est-ce que cette intellectualité de l'islam que j'essaye de porter à ma manière peut apporter ? Comment est-ce qu'elle peut contribuer ? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur l'écologie ? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur la bioéthique ? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le transhumanisme ? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur l'effondrement ? Etc. etc. Et c'est ainsi que, par exemple, dans ce livre, l'islam du cœur, je pars de questions qui sont, j'allais dire franco-françaises, musulmano-musulmanes, c'est-à-dire qui intéressent d'abord la relation profonde que chaque musulman nourrit à sa tradition, mais je montre dans cet esprit de débordement qu'en réalité, tout cela n'est qu'une porte d'entrée pour nous, la porte d'entrée d'une culture, d'une intellectualité, d'une sagesse, d'une pensée, d'une spiritualité, vers des questions contemporaines auxquelles nous sommes tous affrontés.
Mathieu Thérieux, donc tout honnête homme, femme évidemment, peut lire cette anthologie bilingue.
Oui, cette anthologie, elle a plusieurs intentions et destinations. Comme vous avez pu le constater, ça a d'abord la forme d'une anthologie scolaire ou universitaire. Donc, il y a une visée pédagogique. J'étais moi-même professeur dans le secondaire pendant longtemps.
Oui, mais du coup, ça facilite la lecture.
C'est un petit peu le manuel dont j'aurais rêvé quand j'étais professeur de philosophie et étudiant en langue arabe et en islamologie. Il s'adresse aussi à un bien plus large public, à tout amateur de philosophie qui serait curieux de l'islam et notamment curieux de dépasser les idées reçues, les stéréotypes qui circulent allègrement sur l'islam, et tout musulman, toute musulmane, tout musulman, curieux, envieux, désireux de découvrir ce patrimoine, cet héritage philosophique de l'islam que beaucoup, et la plupart peut-être des musulmans aujourd'hui, en particulier en France, ignorent. Voilà, donc j'étais très sensible en lisant le livre d'Abdennour Bidar, à cette adresse qu'il fait à ses jeunes amis, la fois la jeunesse et l'amitié musulmans, et que c'est un appel aux consciences musulmanes. Nous avons ce point de vue d'extériorité qui est celui de l'université, hein, donc c'est évidemment une approche non confessionnelle de l'islam, mais c'est une approche philosophique de la philosophie et de la philosophie en islam, mais nous avons eu à l'esprit de nous adresser et de penser à la fois aux non-musulmans qui ont quelque chose à découvrir de l'islam qu'ils ignorent et aux musulmans qui ont quelque chose à découvrir ou à apprendre de leur religion, de leur civilisation, de leur patrimoine qu'ils ignorent également.
Gilles Deleuze.
La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. En traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sur, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer.
Mathieu Terrier, vous souriez en entendant Gilles Deleuze. Philosopher, c'est effectivement essentiellement créer des concepts, mais philosopher, c'est aussi une manière de vivre, de se laisser transformer par des idées, ça c'est, disons, très, très grec. Mais est-ce qu'il n'y a pas en islam, alors je pose une question peut-être un peu explosive, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt du côté, parfois, des dogmes que des concepts ? Abdennour Bidar, vous me regardez très sévèrement.
Pas du tout sévèrement. En effet, à chaque fois que le dogme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le dogme ? C'est la vérité toute faite. Alors que l'exercice de la philosophie ou l'exercice de la pensée, c'est la vérité toujours à faire ou à refaire ou à viser comme un horizon qui recule par définition devant nous au fur et à mesure qu'on essaie de s'avancer vers lui. Que ce soit, je dirais, dans la culture musulmane ou dans toute autre culture religieuse, c'est une question de régénération ou de revivification nécessaire pour la foi que de s'astreindre à cet exercice de la pensée qui dit non, s'il y a une vérité, elle n'est pas tout entière déjà là, déjà à ta disposition et tu ne la détiens pas, tu ne la possèdes pas, enfermée dans un dogme qui te dit fais ceci ou fais cela. L'exigence spirituelle même de la foi t'oblige d'une obligation intérieure à aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que, et c'est ce à quoi d'abord je pense la philosophie de l'islam rend attentif le croyant, ne serait-ce que parce que l'objet de visée ici, c'est le divin. Et le divin par définition est transcendant. Et dès les premières formules coraniques, le divin est transcendant par rapport à tout ce que les hommes peuvent imaginer, par rapport à tout ce que les hommes peuvent concevoir, par rapport à tout ce qu'ils peuvent, dit le Coran, lui associer. Donc c'est une exigence d'aller chercher la vérité toujours plus loin, au-delà non seulement de nos dogmes, mais même au-delà de nos concepts, qui n'ont jamais qu'une vertu, que la vertu de nous mettre dans une direction. Voilà, et de nous mettre en effort, en réalité, vers cette transcendance. Il y a un verset du Coran qui dit, et qui est un verset, je dirais, favori des philosophes de l'islam, qui dit « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude ». Vous voulez que je vous le dise en arabe ? Donc c'est « Wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ». Et c'est cet effort qui est indiqué dans le verset. C'est-à-dire l'attitude d'adoration, pas une adoration béate de quelque chose qu'on contemplerait déjà, mais c'est un effort sur soi, un effort intérieur d'approfondissement du regard, d'intensification de l'orientation de l'être tout entier, jusqu'à ce que te vienne un jour la certitude, mais dans ce cas-là, une certitude qui est peut-être d'une nature tellement subtile que ce qui est certain reste en même temps insaisissable.
Mais vous parlez de divinité, Abdennour Bidar, mais Mathieu Terrier, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a tous en nous quelque chose de divin.
Oui,
chacun, chacune.
Oui, pour revenir d'ailleurs sur ce que disait Abdennour Bidar, le divin, c'est la transcendance, mais c'est aussi l'immanence, puisque comme ça a été, comme d'ailleurs Abdennour Bidar l'indique dans son livre, et c'est aussi un chapitre de l'anthologie, au niveau de la, sur la question de la connaissance de soi, il y a cette fameuse parole, alors attribuée au prophète Mohammed ou à l'imam, au premier imam chiite Ali d'ailleurs, ce qui ne constitue pas une opposition, puisque les deux étaient très proches, qui dit qui se connaît soi-même ou qui connaît son âme, Arafa Nafsahu, connaît son Seigneur, Arafa Rabbahu. Et donc voilà, la connaissance de soi, c'est la découverte du divin, de la transcendance dans l'intériorité, donc dans l'immanence. Peut-être pour revenir sur ce que disait Gilles Deleuze, effectivement que j'ai eu grand plaisir à entendre, non seulement pour le contenu de ses propos, mais aussi pour cette voix si inimitable, mais j'y suis très sensible parce que Deleuze a été un des premiers dans son livre coécrit avec Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie à réfléchir, désolé pour lui puisqu'il il s'oppose à cette formule, mais à penser le concept de philosophie au-delà justement de l'Occident et à penser la possibilité d'une philosophie islamique, une philosophie indienne, une philosophie chinoise, et cette fameuse définition de la philosophie, effectivement, non pas comme réflexion sur, mais comme création ou invention de concepts. Ce qui, pour moi, caractérise la philosophie en islam, c'est peut-être les deux, c'est-à-dire effectivement, il y a quand même cette dimension de réfléchir sur, et là je reviendrai sur ce qu'a dit aussi Abdennour Bidar, c'est-à-dire que la question que vous avez posée, la question des dogmes, que ce soit l'unicité de Dieu, que ce soit la prophétie de Mohammed, la résurrection, le paradis, l'enfer, etc. Ces dogmes qui sont effectivement, qui se présentent et qui se sont sclérosés comme des vérités toutes faites, sont littéralement recréés, réinventés précisément par les philosophes qui, entre guillemets, pour ne pas blesser post-mortem Gilles Deleuze, qui réfléchissent sur eux. Et il y a un chapitre dans l'anthologie qui s'intitule « Philosopher », enfin « Lire le Coran en philosophe ». Voilà, parce que précisément, le Coran a été reçu, compris par les penseurs de l'islam, non pas comme un ensemble de dogmes ou comme une révélation s'imposant comme une vérité toute faite tombée du ciel, mais comme une invitation et même comme une obligation à philosopher. Mais la philosophie en islam, c'est aussi une création de concepts, une invention de concepts, et là, j'insisterai sur une notion, un concept qui est particulièrement révélateur de ce fait, qui est le concept de monde imaginal, non pas imaginaire, mais bien imaginal. C'est l'arabe alam al-mithal, littéralement le monde de l'image, dans lequel se situent tous les symboles, toutes les images, toutes les apparitions, toutes les formes surnaturelles des prophètes, des anges, etc. Et le théâtre, dirais-je, de la résurrection, que ce soit au paradis, en enfer, ou antérieurement même dans le bazar, c'est-à-dire le monde de la tombe, entre la mort individuelle et la grande résurrection universelle. Ce concept de monde imaginal est littéralement, d'où le néologisme, je dirais, imaginal, et c'est d'ailleurs un concept qui a été remarqué et développé par Henri Corbin, est une des grandes inventions ou créations conceptuelles de la philosophie en islam.
Mathieu Terrier, Abdennour Bidar, vous êtes les invités de l'heure philo. Mathieu Terrier, vous co-signez Anthologie bilingue de la philosophie en islam. Abdennour Bidar, vous avez écrit L'islam du cœur, appel aux consciences musulmanes.
Des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jettera l'ancre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici, de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Dessiner le large, les couleurs baillent à la soif d'Asiad Jebba. Le cœur qui bat, qui parle et qui s'éveille. Au goût du sel de mer et du soleil. Ton nom sent le mien, rouge pareil. Ton nom sent le mien, oui, son rouge pareil. Je suis ce que tu tu me donnes. L'ignorance ou un morceau de pain. Les mémoires secrètes en nous dorment et résonnent. Nos ancêtres se tiennent par la main.
C'était Swad Massy avec Gaël Faye, d'ici, de là-bas. Il n'y a pas que Mathieu Terrier qui a le droit de réagir aux propos de Gilles Deleuze. Oh, vous aussi, Abdenourmida, vous avez le droit.
La définition que donne Gilles Deleuze de la philosophie est très connue, hein, comme activité créatrice de concepts. Pour ma part, en lisant l'anthologie de Mathieu Terrier, et en repensant à mon propre livre, du coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais un philosophe musulman. Donc, ce qui est une façon de dire, en réalité, que je me suis retrouvé dans cette position d'être peut-être un créateur de concepts, mais je dirais plus précisément un héritier créateur. Hein, c'est-à-dire que, et c'est ça pour moi la beauté de l'activité philosophique, on reprend le fil aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, d'une immense conversation philosophique qui s'est poursuivie de génération en génération. Hein, et évidemment, on apporte sa voix et sa pierre dans une situation aujourd'hui qui est, comme toute situation historique nouvelle, mais en même temps en étant un héritier, c'est-à-dire en se nourrissant de toute une culture qu'on a intégrée, qu'on a méditée profondément, qu'on a essayé d'intérioriser. Et je dirais que la difficulté à laquelle je me sens confronté est d'être, si je dois être un héritier, un double héritier. C'est-à-dire quelqu'un qui hérite à la fois de la philosophie de l'islam, je suis un philosophe musulman, mais je suis un philosophe musulman occidental, nourri au biberon de l'université française. Vous citiez Henri Corbin, on cite nos grands prédécesseurs. Moi, j'ai suivi, par exemple, le grand séminaire de Michel Chodkiewicz, qui était un immense spécialiste d'Ibn Arabi à l'école des hautes études au début des années 90. Voilà. Donc, on a à tisser, j'allais dire tricoter, mais tisser, c'est plus joli, tisser le passé et le présent d'une tradition philosophique, en l'occurrence la tradition philosophique de l'islam, mais aujourd'hui, cette responsabilité de tisser aussi cet héritage philosophique occidental et cet héritage philosophique musulman. Et en ce sens-là, je me sens dans les pas de quelqu'un comme Mohamed Iqbal, par exemple, sur qui j'ai beaucoup travaillé, ce grand philosophe pakistanais, qui déjà, à l'orée de la modernité, hein, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, s'était donné pour tâche d'organiser une sorte de rencontre au sommet entre la tradition philosophique de l'islam, philosophique au sens large, hein, théologique, mystique, métaphysique, etc., et les penseurs modernes de Hegel, Nietzsche, Kant, etc., jusqu'à Carl Gustav Jung, jusqu'à Heidegger.
Abdenour, ça veut dire serviteur de la lumière. C'est vos parents, votre maman qui vous a donné ce prénom ?
Oui, alors on ne va pas rentrer dans des considérations trop personnelles, mais...
Non, mais quand même vous en parlez.
J'en parle parce que c'est lié à ma vocation philosophique.
Mais à votre formation aussi.
Oui,
en fait.
C'est-à-dire que là, en islam, les prénoms sont très chargés de signification. Je dirais que ce sont des prénoms qui sont, pour le dire d'une formule, qui sont un peu chargés de faire destinée et de faire obligation. Donc moi, je me sens tenu par la lumière, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire faire partie de ceux qui essaient de clarifier, voilà, de rendre la nuit obscure de l'existence
un peu moins obscure. Et vous êtes sur la voie de l'éveil ?
Alors oui, je suis sur la voie de l'éveil au sens où c'est pour moi l'activité philosophique fait partie d'un engagement spirituel de ma vie tout entière, qui est effectivement un chemin de clarification de conscience, de clarification intérieure. C'est mon chemin, voilà, qui est à la fois un chemin de pensée, un chemin d'exercice intérieur, un chemin de prière, un chemin de contemplation.
De méditation,
voilà.
Mathieu Terrier.
Ouais, pour revenir d'abord sur ce que disait Abdennour Bidar, parce que ça, je trouve ça effectivement très très intéressant. C'est la question de la de la position personnelle comme créateur de concepts. C'est-à-dire qu'effectivement, la philosophie en islam est, conformément à la définition de Gilles Deleuze, activité de création ou d'invention de concepts. Mais les philosophes de tradition musulmane, ou les philosophes musulmans, ont toujours eu, pour l'immense majorité d'entre eux, cette espèce de modestie chevillée au corps, de ne pas se présenter comme des auteurs ex nihilo, mais de se réclamer d'une tradition, et s'ils ont créé ou inventé des concepts, c'est généralement en ne le disant pas, et en présentant simplement leur pensée comme une reprise, avec des citations, etc. Une deuxième chose, c'est cette discussion. Alors effectivement, cette discussion, ce dialogue infini, pour reprendre une expression de Maurice Blanchot, il a eu lieu en islam entre ces penseurs qui se sont succédés tout en se reprenant et en dialoguant entre eux. Et effectivement, tu parlais, Abdennour, de Saint-Augustin, les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent dans le monde des idées, mais ils ne se sont pas rencontrés au cours de l'histoire dans le monde terrestre et historique. Et ce dialogue qui n'a pas eu lieu alors même que les bases ou les racines de l'activité philosophique étaient communes en Europe et en islam, à savoir les racines grecques. On a longtemps pensé, Husserl l'a écrit, que c'était l'Europe qui s'était fondée sur la pensée grecque et que c'était une sorte d'héritage exclusif de l'Europe. Mais ça, c'est faux. L'islam philosophique s'est développé tout à fait sur la même base, et même d'ailleurs avec une connaissance et des références encore plus larges aux penseurs grecs et notamment présocratiques. Donc ce dialogue qui n'a pas eu lieu jusqu'au XVIIe siècle, où, ça c'est une période qui m'intéresse particulièrement, où en Iran chiite, safavide, il y a de grands philosophes qui sont les contemporains de Descartes, Spinoza, Leibniz en Europe, et les uns et les autres ignorent absolument leur existence réciproque, hein, leur existence mutuelle. Ce dialogue qui n'a pas eu lieu, il peut et il doit avoir lieu aujourd'hui. Il peut avoir lieu aujourd'hui, et on a essayé d'y contribuer, parce qu'on a la connaissance des textes, on a les éditions, on a les traductions, on peut mettre à disposition des uns et des autres ce patrimoine philosophique commun, et il doit avoir lieu parce que, et là aussi, ce que disait Abdennour à la fois à titre personnel et à titre plus général l'illustre parfaitement, c'est que l'enjeu, c'est la coexistence des citoyens du monde et dans la cité du monde.
Et des vases communicants que vous pouvez vous créer, Abdennour Bidar, non ? C'est parce qu'il y a au fond quand même des influences réciproques, même si elles ont lieu a posteriori.
Oui, effectivement. Et puis, alors là aussi, c'est un aspect de ce que dit Mathieu Terrier dans son introduction, auquel j'ai été très sensible. La connaissance de cette philosophie telle qu'elle s'est déployée dans le monde musulman permettrait, dans un esprit de dialogue, pas dans l'idée de donner des leçons, mais de faire respirer considérablement notre conception que tu appelles moderne et ethnocentrée de la philosophie, qui est devenue strictement, tu multiplies les qualificatifs, tu dis une discipline universitaire. Ah oui, mais alors là, je vais le dire à l'antenne, hein, j'ai bu du petit lait en lisant cette introduction. Tu dis, ce qui est devenu chez nous une discipline universitaire, théorique, rationnelle, profane, en réalité, a dessiné un périmètre qui est très très étroit pour la philosophie, et il y a une possibilité de respirer avec cette philosophie de l'islam qui, évidemment, en tant que philosophie, est un exercice de la raison, et on ne saurait jamais trop y insister, mais qui laisse la place, alors par exemple, à ce dont tu as parlé, l'imagination, mais une dimension très peu travaillée aujourd'hui de l'imagination, et nous, on en est averti grâce à Henri Corbin, qui est celle de l'imaginal, ou de l'imagination créatrice, mais qui en réalité nous dit que tout notre réel est tissé d'une dimension imaginale, c'est-à-dire que tout symbolise en réalité. Ne lisons pas le monde dans lequel nous vivons de façon littérale. Réapprenons l'intelligence symbolique du monde. Donc là, il y a des voies vraiment d'exploration énormes. Et puis, ne faisons plus l'économie de la confrontation, de l'ancienne et redoutable confrontation avec l'hypothèse de la transcendance. D'une certaine façon, la proposition ici est, attention, si vous ne vous confrontez pas à la transcendance, ce qui guette votre philosophie, c'est l'insignifiance. Et je ne dis pas ça seulement pour la rime.
Paul Ricoeur.
C'est par choix et par discipline et cohérence que j'ai tenu de bout en bout la distinction entre éthique et morale que je crois pouvoir expliquer très simplement. Je veux dire que nous entrons vraiment dans un problème moral lorsque nous sommes en face de normes, d'obligations, d'interdictions. Et alors, en mettant l'éthique avant la morale, je veux dire qu'il y a précisément quelque chose qui précède la norme, l'obligation, l'interdiction. Et ce quelque chose, c'est le désir d'accomplissement, d'avoir une vie accomplie. Je peux me servir du terme d'Aristote de bonheur, mais je tiens beaucoup plus à celui d'une vie accomplie. Et alors, de nouveau, je trouve le rapport avec l'autre, parce que je ne peux avoir le souhait, le désir profond d'accomplissement que dans le rapport d'amitié ou d'amour. C'est pourquoi je définis ainsi l'éthique, le souhait de vivre bien avec et pour les autres, dans des institutions justes.
Le rapport avec l'autre, c'est quand même toute la question, non, de notre monde depuis qu'il existe, mais peut-être encore plus à l'heure actuelle. Vous êtes des élèves absolument extraordinaires, tous les deux. Vous prenez des notes pendant que Paul Ricoeur parle et tout. Mais je vous trouve impeccable, franchement. 10 sur 10.
Studio un jour, studio toujours. Hein.
Vous avez raison.
Mais c'est pour ça, c'est vraiment en écoutant Paul Ricoeur, moi je dirais c'est simplement pour ça que j'ai appelé ce livre l'islam du cœur. Mm. Hein, c'est-à-dire tout part du cœur, non pas, je dirais, dans un sens sentimental ou mièvre du cœur qui serait simplement le siège de l'émotion, mais le cœur qui non seulement sent, mais le cœur qui pense, le cœur qui aussi conduit vers l'autre, avec cette intuition profonde que derrière l'altérité, il y a une communauté profonde, qui est une communauté d'humanité, hein, que l'autre soit musulman ou pas musulman, qu'il soit croyant ou qu'il soit pas croyant, c'est un être humain, hein, et c'est mon cœur qui le sait, en réalité, il est mon semblable humain. Donc j'ai voulu parler de l'islam du cœur pour parler d'une philosophie qui soit une éthique profonde, de la conduite à partir de l'intériorité la plus profonde. Il y a une image dans le Coran que j'aime beaucoup, qui est éthique et philosophique, c'est l'image de la balance. Hein? L'image de la balance, et il y a cet avertissement divin. Alors, avertissement, en réalité, c'est invitation à méditer. Hein? Cet avertissement qui dit ne faussez pas la balance. En arabe, c'est el-mizan, la balance. Et je crois que le cœur, effectivement, et cette balance, cette ouverture du cœur, sert de balance qui permet de peser, qui permet peut-être de penser plus juste, d'agir plus juste, c'est-à-dire de se conduire dans la vie avec soi et avec les autres, en toutes circonstances, avec une forme de sagesse pratique. Voilà. Et c'est en ce sens-là, pour moi, que la vie spirituelle la plus profonde, c'est-à-dire le soin que nous prenons de notre cœur, dans des temps qui sont des temps de prière, de recueillement, de méditation, de contemplation, qui semblent n'avoir, je dirais, aucun rapport avec la vie que nous menons ensuite à l'extérieur et n'être d'aucun usage pour la vie que nous allons mener ensuite quand nous allons nous relever de ce temps de méditation, revenir au monde à partir de ce temps de méditation, eh bien, dans la philosophie de l'islam, dans la pensée de l'islam, au contraire, il nous est parlé d'une liaison féconde entre ce que nous allons puiser dans notre cœur et la qualité ensuite éthique de notre action et la justesse également de notre pensée.
Sagesse, éthique, les mots ont été lancés. Mathieu Terrier, l'essentiel, là je ne fais que répéter ce que j'ai lu de vous, mais l'essentiel de la philosophie islamique se situe, vous le montrez bien, d'abord dans la métaphysique, puis dans la physique et dans l'éthique.
Oui, et pour revenir sur cette question, enfin, sur cette notion de sagesse, et revenir sur ce que disait Paul Ricoeur dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est qu'effectivement la philosophie en islam, d'où d'ailleurs les regrets formulés dans notre introduction à propos d'une discipline devenue sur notre continent strictement universitaire, rationnelle et profane, la philosophie en islam est une quête de la sagesse, est une quête de la vie accomplie ou de la vie heureuse. Comme disaient Aristote et Paul Ricoeur, ça n'a jamais été une forme simplement de discipline institutionnelle, même si les philosophes avaient aussi d'autres professions comme médecin, juriste, etc. Mais on a fait de la philosophie en islam pour atteindre une vie accomplie et pas seulement pour produire des idées. D'où le fait d'ailleurs que cette philosophie en islam s'appelle souvent hikma, sagesse, et non pas seulement falsa. Safa, qui est le calque arabe du mot grec philosophia. Et pour revenir à votre question, effectivement, la métaphysique, la physique et l'éthique, pour prendre un exemple qui est un chapitre de notre anthologie, c'est la question du mal, c'est le problème du mal, qui est le grand problème de toutes les religions et de tous les systèmes philosophiques. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, finalement, qu'il y a des religions et des philosophies. Le problème du mal dans la philosophie de l'islam, c'est toujours posé d'abord d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire là, pourquoi dans un monde censé être créé par l'être parfaitement bon, sage et puissant, pourquoi y a-t-il de la négativité, pourquoi y a-t-il la mort, la maladie, la saleté et la violence et l'injustice. Bon. Et cette question a réellement été prise à bras-le-corps par ces philosophes qui se sont efforcés de produire ou de créer ce qu'on appelle une théodicée, donc une justification de la sagesse divine, en soutenant envers et contre toutes les apparences que le mal dans le monde n'est que relatif, n'est que secondaire et peut-être même n'est finalement qu'une forme d'illusion derrière laquelle se révèle la perfection et la sagesse du monde et de son créateur.
Alors sans vouloir être mièvre ou simplement sentimental, mais il y a aussi la question, comme vous le disiez tout à l'heure Abdennour, il y a quand même aussi la question de l'amour, et c'est un thème majeur et constant de la culture arabo-musulmane, l'amour dans une double dimension, à la fois terrestre et spirituelle, humaine et divine, et qui est très souvent évoqué dans le texte du Coran.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est très souvent évoqué dans le texte du Coran, d'ailleurs, de manière réciproque. Hein, c'est les hommes qui sont appelés à aimer Dieu et Dieu qui aimera les hommes. Et donc, le prophète est un intermédiaire, en fait, dans cette relation qui est appelée à se créer, à se recréer entre les hommes et Dieu. Et pour revenir sur la question aussi que vous posiez sur l'altérité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un chapitre dans l'anthologie sur le désir et l'amour. Où finalement une idée qui se dégage dans des textes qui d'ailleurs se reprennent les uns les autres, l'idée qui se dégage, c'est que l'autre que l'on aime, d'ailleurs que ce soit un autre sujet humain ou que ce soit des biens matériels, même l'argent et les honneurs ou les plaisirs de la chair, en fait derrière ces objets divers et innombrables, il y a toujours Dieu en fait, et donc l'autre qui est aimé, finalement, en définitive, c'est toujours Dieu, et Dieu qui s'aime lui-même. Donc, je dois dire que la question de l'altérité dans cette philosophie de l'islam est tout de même problématique, puisque au terme du désir et de la relation à l'altérité, finalement, il y a toujours l'identité, mais c'est une identité qui est à la fois celle de l'homme et celle de Dieu, et donc c'est une identité qui est traversée ou travaillée par l'altérité elle-même.
Abdennour Bidar, il y a la question des mœurs en soi, c'est vraiment une question centrale. Vous parlez d'un islam de l'amour, vous parliez du cœur, il y a sept stations du cœur, mais là, c'est peut-être dans une... C'est assez platonicien, en fait, comme vision des choses, mais l'amour physique est aussi une voie d'accès à l'amour métaphysique, à l'amour divin.
Oui, alors...
C'est pas forcément l'image qu'on a de l'extérieur.
Non, mais les grands poètes mystiques de l'islam ont toujours été simultanément sur ces deux registres. Mmh. Hein. Et ça n'est pas que, il ne s'agit pas de réduire ce qu'ils ont pu dire à l'idée que, en réalité, ce qu'ils visaient, c'était uniquement l'amour divin. Il y a quelque chose. Alors, je vais prononcer un terme qui paraît très très exogène à l'univers spirituel de l'islam, et pourtant qui est très puissant dans la culture spirituelle de l'islam, c'est la notion d'incarnation. Ah, tiens. C'est-à-dire que, en réalité, la relation au divin et le fait de vivre divinement, hein, comme le disait Platon, que tu cites d'ailleurs dans ton introduction, dans le Théétète, il dit le but de la philosophie, c'est de se rendre semblable à Dieu autant que possible, hein, ce que reprendront jusqu'aux néoplatoniciens.
Semblable, mais pas soumis.
Ah non, justement. Justement, semblable. Eh bien, l'idée, c'est qu'on peut vivre divinement dans sa chair. On peut vivre divinement dans ses relations avec les autres. Mais la condition, c'est effectivement l'ouverture du cœur. C'est-à-dire l'ouverture d'un cœur qui voit qu'il y a dans toutes les dimensions de la vie humaine, pardon, je vais le dire d'une façon un peu compliquée d'abord, autant d'opportunités théophaniques. C'est-à-dire autant, en réalité, de possibilités pour le divin de se manifester. Mais le divin, pour celui qui sait le voir de l'intérieur, se montre dans tout. Il se montre dans tout, il se donne à tout instant. Et il se donne dans la relation amoureuse, il se donne dans la relation amicale, et il se donne pour toi, l'être humain, d'abord dans ce qui est l'essence même de ta condition humaine, c'est-à-dire ta finitude et ta misère. Les grands mystiques musulmans disaient, par exemple, Ibn Athaillah, il meurt au début du XIVe siècle, disait « le meilleur de tes états, c'est la détresse ». Faqat en arabe, c'est ta détresse. Parce que dans ta détresse, tu sens simultanément la petitesse de ton être et la grandeur de Dieu qui vient te soutenir et qui descend jusque-là. Si j'étais Christian Bobin, je dirais qu'à ce moment-là, le Très-Haut se révèle comme étant en même temps le Très-Bas. Hein. Voilà, et c'est ça la dimension de l'amour, c'est aimer la vie telle qu'elle est, dans toutes ses dimensions, parce que tout est là et parce que Dieu ne manque jamais pour le cœur qui sait le reconnaître et l'identifier. Et c'est en ce sens-là que c'est en même temps une attitude philosophique, parce que c'est une vertu de l'œil, c'est une vertu du regard. Hein. On parle souvent dans la tradition islamique du Ayn al-Yaqin, c'est-à-dire de l'œil de la certitude, c'est-à-dire l'œil qui, en toute sérénité, pas en insensibilité ou en impassibilité, en toute sérénité, tranquillité intérieure et dans la joie, parce qu'il reconnaît le divin, y compris dans les manifestations les plus ordinaires de l'existence humaine.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez. Natacha Atlas.
Thank you. prophète Mohammed avait désigné déjà à son époque une femme qui s'appelait Umm Waraqa pour être imam dans une tradition prophétique qui se retrouve dans les recueils canoniques de la Sunna, c'est-à-dire de la tradition prophétique, sauf qu'on n'en parle jamais. Et en fait, cela nous ramène à un autre fait religieux qui est celui du prisme patriarcal, du prisme très masculin et exclusivement masculin, je dirais, de la lecture et de l'interprétation des textes religieux. Et quand on essaye donc de remettre les choses à plat, de relire les textes et de redécouvrir cette tradition-là, on se rend compte d'abord qu'il n'y a absolument rien qui l'interdit. Et on se rend compte que finalement, c'est la tradition qui a instauré un interdit, un impensé même en réalité, mais un impensé qui est finalement plutôt récent et contemporain, parce qu'à l'époque classique, on s'est posé la question d'un point de vue théologique, est-ce que les femmes ont le droit d'être imams ? Et il y a eu de grands penseurs qui ont répondu par l'affirmative et d'autres qui ont dit non, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque classique, il y a eu un vrai débat théologique sur la question. Et aujourd'hui, ce débat-là, jusqu'à ce que certaines femmes le remettent au goût du jour, ce débat-là a disparu.
C'était Kaïna Bahloul, franco-algérienne, islamologue, première femme à se déclarer imam en France. Alors, le droit d'une femme à être imam et puis la place, évidemment, de la femme dans l'islam. Abdennour Bida.
Cette question de la domination masculine, ce que Kaïna Bahloul appelle très justement le règne du patriarcat, c'est une question que j'aborde systématiquement dans mes ouvrages, hein, parce que ça demande à être explicité de la manière la plus claire. Il est hors de question que la culture spirituelle de l'islam reste une culture de la domination, mais dirais-je, et ça aussi je le précise dans les livres, de cette domination-là, des hommes sur les femmes, mais en réalité de toute une série de dominations en cascade. Domination du divin sur l'humain, à travers une religion qui n'est perçue que comme une religion de commandements, de dogmes, de règles, de lois, d'interdits, de fait ceci, de fait cela. Hein. De domination des chefs religieux sur les simples croyants. Moi, je ne suis pas pour, évidemment, qu'il n'y ait plus d'imams, mais pour qu'ils prennent un rôle de conseil et non pas de directeur de conscience, hein, et domination des hommes sur les femmes. C'est pour cela que je parlais de domination en cascade. Je suis un des héritiers de la pensée de Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal dit que le futur de l'islam, c'est une grande démocratie spirituelle. C'est-à-dire tout simplement ça signifie tout simplement que là aussi, ce qui aspire à émerger aujourd'hui, c'est ce que nous appelons, nous, dans notre philosophie en Occident, l'autonomie du sujet, ou la souveraineté du sujet. Voilà. Tout être humain est sujet, et ça rencontre le génie profond de l'islam, ce n'est pas une notion exogène, parce que d'un point de vue musulman, s'il y a autonomie du sujet, c'est parce que Dieu lui-même loge intégralement dans le cœur de chaque être humain. Il y a un hadith du prophète Mohammed qui dit « Les cieux et la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de l'être humain me contient. » Voilà. Et donc, c'est à la découverte de son propre cœur que j'invite, en vue, je dirais, de couper la tête de l'hydre de Lerne de toutes ces dominations qui pèsent sur nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, messieurs. Abdennour Bidar, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, que l'islam du futur, c'était la grande démocratie spirituelle. Donc, ne nous encombrons pas de l'accessoire de la religion et allons vers l'essence de l'islam. C'est un peu ça.
Oui,
dites-moi alors, oui, ça ira plus vite.
Oui, mais je ne dirais pas l'accessoire de la religion, je dirais que la religion est une forme spirituelle qui a accompagné l'humanité sur un certain chemin pendant très longtemps, et qu'il est peut-être temps de passer à quelque chose qui correspond à, pour nous, une maturité intérieure plus grande.
Abdennour Bidar, merci. L'islam du cœur appelle aux consciences musulmanes. C'est donc chez Robert Laffont. Il y a aussi un livre qui va paraître fin avril, que vous co-signez avec Inès Weber, Le Témoin, conseil spirituel aux chercheurs d'éveil. Merci à vous, Mathieu Terrier. Je rappelle que vous co-signez avec Fares Gillon cette anthologie bilingue de la philosophie en islam. Et c'est publié chez Diacritique Édition.
Et aujourd'hui, en accès libre.
Formidable, merci.
Merci beaucoup.